Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un aventurier du rémanent fertile débarque sur les ondes. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je suis Vincent Duverdin, 43 ans. Je suis ingénieur en mécanique formation. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Les Alchimistes, qui fait de la collecte de déchets alimentaires pour les transformer en compost. Avant ça, j'ai travaillé dans le déchet, dans une grande multinationale qui traite du déchet, donc plutôt en incinération et ordure et décharge. C'est un peu là que je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'on enfouisse des déchets alimentaires qui produisent du biogaz qu'on n'arrive pas à bien capter. Et ou alors qu'on incinère des déchets alimentaires qui partent en fumée alors que c'était quasiment principalement de l'eau. Et c'est un peu là où je me suis dit, tiens, c'est un peu dommage d'avoir mis l'accent sur le tri sélectif plutôt que sur le déchet alimentaire qui peut être traité localement, qui représente 40% du poids de la poubelle. Il y a vraiment un effort à faire sur ce déchet-là plutôt que sur les restes. Je suis du nord de la France. Pendant 20 ans, j'ai été coupé du monde. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Pour en fait l'écologie, quand on n'a pas Internet, on l'a lu dans la Strapi, dans les différents échanges qu'on a avec les uns avec les autres. Mais on n'a pas toute cette connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, j'étais écolo à mon niveau à cette époque-là et au fur et à mesure du temps, je me suis quand même pas mal renseigné sur le sujet. Une passion pour le rap, hein, le rap, la musique, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup écouter les paroles. Hein. Pour moi, les rappeurs, c'est un peu les poètes des temps modernes. Hein. C'est un peu eux qui racontent la vie de tous les jours. Ça me nourrit beaucoup d'écouter du rap. J'aime beaucoup aussi les Lego. Ça, je suis un gros fan de Lego. C'est le meilleur jeu.
Dis-nous. Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Est-ce que tu saurais le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Pour moi, les insectes, c'est l'étendard number one du vivant. C'est eux qui sont au départ de tout. Hein. C'est eux qui pollinisent trois quarts des plantes sauvages et cultivées. C'est eux qui sont au départ de la chaîne alimentaire. La biodiversité, c'est un mot qui est un peu valise. Et en fait, ce mot biodiversité, il y a tellement de choses qui vont dedans. Il y a bien sûr la faune, la flore. Dans la faune, c'est pas que les mammifères et les insectes hein, et les oiseaux, c'est aussi les microbes, les bactéries, les champignons. Il y a aussi les milieux, hein, qu'on soit océanique, montagneux, dans la prairie, la savane, le désert. Il y a aussi les couches supérieures comme l'azote, le carbone, le CO2. C'est tout ça qui fonctionne ensemble. Tout ça, c'est vraiment un ensemble qui bouge en permanence, qui est vivant. C'est le fait que ça bouge, que ça arrive à s'équilibrer en permanence. Pour moi, le vivant, en termes de couleurs, moi je suis daltonien, donc... Les couleurs, c'est pas trop mon truc. C'est un peu des couleurs vives, des couleurs vraiment ressortent comme le rouge d'une fraise ou le bleu d'un homard. Voilà, un peu des couleurs exceptionnelles que la nature arrive à produire. Et un son, les nuées d'oiseaux, quand ça fait des nuées comme ça avec le bruit où ils sont tous ensemble en train de piaffer. Mais un petit son qui me fait vraiment bien, qui arrive là justement en ce moment-là, au début du printemps. J'ai des sapins là devant moi, à la hauteur, qui arrivent quasiment à la hauteur de mon balcon. Et en fait, j'entends les pommes de pin qui s'ouvrent tout doucement le matin, enfin voilà, au fur et à mesure de la journée. On entend le crack des pommes de pin qui s'ouvrent. Une texture, j'ai envie de prendre le compost. On voit de où on part quand on fait du compost, quand on part de déchets alimentaires et de déchets verts, que tout ça est mélangé, que ça sent pas très bon, c'est une couleur un peu marronasse et c'est pas très appétissant. Et qu'à la fin, on obtient quelque chose vraiment de très noir, qui sent l'humus, qui est une matière très, très grumeleuse, très agréable au toucher. Hein. C'est vraiment agréable de mettre ses mains dans le compost. Et j'aime mettre mes mains dans du compost et sentir ça, ou même voilà, dans ma cage, j'ai un lombric composteur. C'est une texture qui est un peu différente encore, le lombric compost du compost. De quelque chose qui est mort, on refait quelque chose de vivant.
Pourquoi mon destin est-il de me pouvoir...
Et l'odeur, l'odeur de l'humus, hein, cette odeur de soupe. Voilà, quand on rentre dans une forêt, on sent un peu cette odeur. Je pense fait du bien. Un goût, la pomme bio. J'ai un oncle et ses fils maintenant qui sont arboriculteurs et qui font de la pomme bio. Quand on croque dans une de leurs pommes, il y a vraiment une explosion de saveur.
Comment est-ce que tu retranscris cette vision du vivant dans tes projets ?
Moi, cette vision du vivant, je l'ai apprise récemment. Comme je disais au tout début, je suis un écolo. Au début, quand on est écolo, on commence par les petits gestes, hein, couper l'eau, éteindre la lumière, acheter des fruits et légumes de saison, de refuser les sacs en plastique, etc. Une fois qu'on a fait ces petits gestes, après, je suis tombé dans zéro déchet. Et le zéro déchet, il est intéressant parce qu'en fait, il apporte une réflexion sur toute la consommation. En fait, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. La meilleure façon de ne pas produire des déchets, c'est de ne pas consommer. Et donc, du coup, en fait, quand on commence à être zéro déchet, on commence à s'interroger beaucoup sur nos actes de consommer. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je ne peux pas le trouver d'occasion? Est-ce que je ne peux pas le louer? Ce zéro déchet m'a permis de rentrer un peu plus dans la compréhension de l'écologie, de ce que c'est que l'écologie. Et souvent, c'est aussi ça qui amène dans le CO2. Donc voilà, le CO2, ça amène d'autres actions, de remplacer sa voiture par un trajet en vélo, manger moins de viande, limiter le chauffage, voilà. Et en fait, je commençais à vraiment faire beaucoup de choses à titre perso, m'astreindre à pas mal de trucs. Et à un moment donné, je rentrais un peu en dissonance avec mon employeur d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs historiques du déchet, plus on produit de déchets et plus on consomme d'eau, plus ils gagnent de l'argent. Moi, j'étais là à me dire, mais non, il faut qu'on arrête de produire des déchets et en même temps, si on n'en produit plus, j'avais pu aussi à un moment donné de se dire, c'est bien tout ce que tu fais à titre perso, mais en fait, si tu veux un peu d'impact, c'est au niveau pro qu'il faut le faire, quoi. Il faut changer de métier, quoi. À un moment donné, ça passe par là, quoi. On peut pas rester que à faire tout bien comme il faut chez nous et au travail mettre les œillères. Donc, j'ai pris la décision de quitter mon job pour monter cette boîte-là parce que côté déchets alimentaires qu'on enfouit ou qu'on incinère est bien notifié comme étant une grosse connerie, quoi. Et qu'on s'était un peu trompé de combat, on a axé tout de suite sur le tri sélectif parce que voilà, c'est plus facile, c'est propre et sec, ça donne bonne conscience à tout le monde. Ça fait 15 ans que je composte mes déchets. Voilà, j'avais déjà un peu cette fibre-là, ce côté magie du compost, je l'avais déjà touché du doigt. Et un jour, un copain à moi, Gaëtan Le Poutre, avec qui j'ai cofondé donc les Alchimistes Lyon au départ, m'a proposé de monter une boîte avec lui sur le compostage, parce que lui avait déjà une boîte de collecte de déchets, on va dire très sélectif, hein, voilà, papier, bouteilles, canettes, gobelets, un prix cartouche d'instruments, etc. pour les pros. Et il lui manquait la case collecte de déchets alimentaires, qui est vraiment un déchet vraiment très différent. Avec cette vision du 1er janvier 2024 qui allait arriver, de dire en fait, il y a une loi qui arrive, c'est le compost, c'est avec un copain qui a déjà monté une boîte, avec qui j'avais entièrement confiance. Et du coup, je me suis dit, ça y est, en fait, il y a alignement des planètes. C'est maintenant que je dois quitter mon taf pour avoir un peu plus d'impact que ce que j'avais en faisant uniquement mes actions perso. Quand on commence à mettre le doigt dans le compostage, là, en fait, c'est quoi le compost? C'est quoi? C'est du terreau, c'est un engrais, c'est un amendement. Enfin, voilà, déjà, ne serait-ce que de comprendre la nuance entre ces trois notions-là. Le compost, c'est un amendement, c'est pas un engrais. L'engrais nourrit la plante, alors que le compost nourrit le sol qui nourrit la plante. Et le terreau, le terreau, c'est juste un support de culture, c'est de la tourbe qui vient souvent des pays de l'Est, et c'est tout, quoi. Et au fur et à mesure, on se dit, mais alors, le carbone, comment ça marche, en fait, comment la photosynthèse, et le cycle de l'azote, pourquoi on dit qu'il y a trop de nitrates, c'est quoi les nitrates, comment pousse une plante, les minéraux, mais c'est quoi la différence entre, pourquoi on parle de sels minéraux, et c'est quoi l'organique, c'est quoi le minéral, enfin, du coup, ça m'a complètement absorbé, et j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, je me suis beaucoup documenté sur ça. Et je me suis rendu compte là à quel point c'était génial en fait que le vivant et que la nature et que la biodiversité. Non, aujourd'hui, je suis un fervent défenseur de la biodiversité parce que j'ai compris à quel point c'était vraiment un équilibre, que c'était hyper important et que en fait toutes les solutions sont là.
Mes verres polarisés, je constate que le monde est sombre et tamis.
Et les solutions sont dans la nature, dans le sens où un sol vivant, pour ne parler que d'eux, ça va être un sol qui va être un peu grumeux, spongieux. Et donc quand il pleut sur un sol vivant, il absorbe l'eau comme une éponge. Parce qu'il y a tout un tas de galeries, de trous, d'aspérités, qui fait que l'eau va pénétrer à l'intérieur. Alors que sur un sol mort, bah, qui est compacté, etc., puis elle tombe et elle coule. Avoir un sol vivant résoudrait une grande partie des problèmes des inondations qu'on a, notamment dans le Nord. Les sols sont morts et il n'y a plus rien qui retient, quoi. Et donc c'est pas en curant les fossés qu'on va réussir à endiguer les inondations. L'ensemble des êtres vivants sont constitués de carbone, hydrogène, oxygène, azote, chon, CHON. Plus il y a d'êtres vivants dans un sol, donc de microbes, bactéries, vers de terre, insectes, champignons, plus il y a de carbone vivant dans ces bactéries qui est dans le sol, et quand il meurt, bah, ce carbone reste, se transforme en CO2, mais il reste dans le sol. Et donc plus on a de sols vivants, plus ça capte du carbone. On a un problème de stockage d'eau et de captation d'eau. Enfin, voilà, l'eau, ça va être le sujet majeur des prochaines années. On a un problème de CO2. Rendons les sols vivants, renourrissons-les et rapportons la matière organique sur ces sols. Arrêtons de les labourer, arrêtons de mettre des pesticides et des engrais en permanence dessus. Et on va résoudre le problème. Donc voilà, moi, mon activité pro, elle agit pour le vivant. Parce que on collecte avec les alchimistes qui est déchets alimentaires, des pros, donc ce qu'on appelle les restaurants, les écoles, les cantines, les hôtels, les traiteurs, les fabricants de café, enfin les distributeurs de café, voilà, tout lieu qui produit du déchet alimentaire, que ce soit en cuisine ou reste de table ou reste de cuisine, ça on vient les collecter et ensuite on vient trier, les noter, on note la qualité du tri, hein, pour inciter nos clients à plus ou moins bien trier, et ensuite on va en faire du compost. Et ce compost, bah voilà, il retourne au sol sur les champs des agriculteurs. Et donc, on vient renourrir les sols petit à petit avec ce compost. Et c'est pas que moi, c'est vraiment un collectif qui est complètement dingue. Et il y a vraiment, c'est une entreprise et je suis trop content d'avoir co-construit ça avec tout un tas de personnes qui pensent comme moi. Mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Ce qui va faire changer la face du monde, c'est que les gens se rendent compte à quel point on est dépendant du vivant, à quel point on a besoin de le soigner et de le faire progresser, quoi. D'arrêter d'arracher les haies, d'arrêter de labourer, d'arrêter de tondre en permanence, d'arrêter de vouloir mettre du Roundup sur sa terrasse en gravier pour pas qu'il y ait de mauvais arbres. Enfin, en fait, il faut qu'on laisse s'ensauvager un peu les jardins. Il faut vraiment essayer de renouer un peu avec le vivant, parce qu'en fait, on a tous quitté la campagne pour aller vers les villes. Maintenant, dans les villes, on sait plus comment on pousse une tomate, et en fait, notre seule occupation, c'est d'aller consommer. Alors, consommer du théâtre, du cinéma, mais aussi aller dans les magasins, etc. Donc, on s'est complètement coupé du vivant. Plus personne ne sait ce que c'est que la photosynthèse, comment on pousse une plante, ou voilà. Je fais partie de ces personnes-là qui ne savaient plus. Franchement, ce que j'ai réappris là, c'est génial, et j'ai vraiment tellement envie de le partager aux autres. Et voilà, c'est ça que ma mission pour le vivant, elle est plus dans essayer d'informer et expliquer tout ce que j'ai compris. On a tous un
rêve, on poursuit. Qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Plutôt que d'apporter, je dirais plus arrêter de détruire, arrêter de bétonner, arrêter d'artificialiser, arrêter d'arracher les haies, arrêter de d'assécher les zones humides, arrêter de déboiser, arrêter de déforester, pour faire de l'agriculture intensive, pour nourrir des animaux, pour pouvoir manger de la viande. Enfin, on a atteint un certain sommet. On peut se satisfaire d'avoir vivre en bonne santé, etc. On améliore ça. On a atteint nos objectifs. Maintenant, on profite. Il y a 10 000 ans, les hommes et leurs mammifères d'élevage représentaient 0,1% des mammifères totaux. Aujourd'hui, l'homme et ses mammifères d'élevage représentent 96% des mammifères totaux. Un tiers d'hommes, deux tiers de mammifères. Il reste plus que 4% d'animaux sauvages. Voir un lapin, un renard ou une biche pendant une balade, c'est un truc exceptionnel. On a tellement rasé tous les espaces de vie des animaux sauvages, hein, donc les forêts, les zones humides, il reste plus que 4%, quoi. Donc, et dedans, il y a les rats, hein, dans les 4%. Arrêtons de saccager tous les espaces sauvages pour manger de la viande. On est allé trop loin dans le truc. On a besoin de l'élevage pour apporter de la matière organique au sol, réduire au maximum. Moi, je veux dire qu'avant, on faisait de l'élevage et de la culture, et les excréments des animaux nourrissent la culture, et la culture nourrissait les animaux.
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, présentait le dernier avis de l'ADEME, l'Agence de Transition Écologique, sur les produits biosourcés. Publié le 26 février 2025 pour être présenté au Salon de l'Agriculture, cet assemblage de préconisations vise à avoir une meilleure utilisation de ces nouveaux produits de plus en plus présents sur les marchés. Pour rappel, depuis plus de 30 ans, l'ADEME soutient et accompagne l'innovation pour favoriser le développement de produits biosourcés durables et compétitifs. L'appel à projets produits biosourcés et biotechnologies industrielles s'inscrit dans cette volonté du gouvernement d'accélérer le développement des biotechnologies industrielles françaises et la fabrication de produits biosourcés, en soutien des ambitions du plan France 2030 et dans le cadre de la stratégie d'accélération produits biosourcés et biotechnologies industrielles carburants durables. La France est le premier pays agricole européen et près de 90% de son territoire est recouvert de surfaces agricoles ou de forêts. D'après l'ADEME, valoriser la biomasse locale permet non seulement de réduire la dépendance aux importations, mais aussi de créer des filières et des emplois sur notre territoire. Ce rapport souligne qu'en se substituant à des matières non renouvelables, pétrole, minéraux, métaux, les produits biosourcés jouent un rôle important dans la transition écologique. Cependant, quelques préconisations sont nécessaires afin de préserver les bienfaits de ces produits. Tout d'abord, bien que renouvelable, la biomasse est limitée par la capacité des écosystèmes, dont la préservation doit rester prioritaire. Un équilibre entre la production de biomasse et le maintien des services écosystémiques, alimentation, captage de carbone, biodiversité, épuration de l'eau, loisirs, paysages, est à maintenir. Ensuite, lors du processus de fabrication, il est nécessaire d'exploiter tous les coproduits et les sous-produits pour optimiser le potentiel de la ressource. De même, la priorité doit être donnée à un produit biosourcé, surtout quand il garantit une approche sur le long terme. Et enfin, pour une communication honnête et transparente, l'ADEME recommande d'indiquer la teneur en matière biosourcée réelle et vérifiable. L'Agence de transition écologique recommande et préconise, mais à l'heure actuelle, les nouveaux produits biosourcés du marché naviguent dans le flou juridique des petits nouveaux. À la lumière de ton expérience et de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
C'est mieux de produire de l'essence ou du gaz à partir de la biomasse, du déchet alimentaire, plutôt que de l'extraire du sol. L'enjeu, c'est d'arrêter de mettre du CO2 qui provient des profondeurs, de le mettre dans l'atmosphère. Chaque nouvelle énergie, chaque nouveau produit vient s'additionner à ce qui existe déjà plutôt que de remplacer quelque chose d'autre. C'est plus ça qui démotive un peu. C'est qu'on se dit, une solution en fait, et après bon, on va se dire, pour autant on n'a rien réduit de l'autre côté, ça a juste fait plus quoi. Plutôt un militant de réduire nos consommations, les mettre au meilleur endroit, voilà. Pour les produits, la paille en plastique ou la paille compostable, pour moi c'est la même chose. Enfin, je veux dire, on s'achète une bonne conscience en mettant une paille compostable. Mais la paille compostable, elle va dans la poubelle normale. Si c'est bien un objet 100% inutile, c'est bien une paille. Il pourrait réussir quand même à se passer de cet objet-là, quoi. Et non, en fait, on vient le remplacer par un autre produit, plus ou moins compostable, plus ou moins PLA, on ne sait pas trop, etc. C'est là où je trouve qu'on devrait avoir un peu plus de courage sur les produits inutiles. Le problème de tout ce qui est un peu écolo, biosourcé et compagnie, c'est que ça déculpabilise l'acte de consommer.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
La révélation pour moi, fin 2024, que j'ai envie de vous partager, c'est un podcast de Olivier Hamant sur la robustesse du vivant. C'est le culte de la performance pour de la robustesse. Sur Thinkerview, c'est un podcast qui dure 2 heures, mais c'est vraiment passionnant. Et si vous êtes un peu anxieux, si vous ne voyez pas trop à quoi sert votre action, que vous dites, c'est bien tout ce que je fais, mais en fait, je sers à rien, je suis qu'un petit colibri, etc. Ce podcast-là va vous remettre dans le droit chemin et vous dire, en fait, tout ce que vous faites sert à quelque chose. Donc, Olivier Hamant, Thinkerview, le culte de la robustesse. Je vais aussi conseiller un livre, Rendre l'eau à la terre, et qui parle de l'effet des castors. Donc, en fait, les castors, le fait de faire des barrages, ça fait monter le niveau de l'eau au niveau de la terre. Donc, ça réhumidifie, en fait, toute la terre en amont du barrage. En fait, ça vient ralentir l'eau, ça vient nourrir d'eau sans des berges, quoi, enfin des terres extérieures. On a encore une fois beaucoup de choses à apprendre du vivant. Tout se tient. Dès qu'on tue une espèce, il y a des conséquences.
Mais les voitures, des petits trajets de travail, maison, tu me dis, oh moi, les véganes, quand je dis de manger plus végétal, on mange trois fois plus de viande que nos aïeux est-nord. Tu déjà interrogé et demandé pourquoi l'humus protège et nourrit le sol de la forêt. Pour imiter la nature au minimum, faudrait pailler. En ville, ils pulvérisent pour désherber. On préfère que ce soit uniforme et manlé. Notre équilibre avec la nature nous offre notre liberté. Le perdre va être bien plus violent que le Covid l'a été. La technologie qui peut nous sauver existe déjà. Les sols, les plantes, les arbres ne demandent que ça. Nos connaissances sur ces sujets sont proches du néant. C'est bien pour ça qu'avec les alchimistes, on lance un mouvement. Arrêtons de brûler la vie par les deux bouts. On veut rester libre, vivant et debout. Personne te demande d'arrêter tout, mais traitons les problèmes. Parler debout, réduire nos émissions malgré tout et donner une chance à la nature de tenir le coup. Arrêtons de brûler la vie, parler debout, on veut rester libre, vivant et debout.
Ouais. Faire plaisir, ça fait plaisir.
Vivant et debout.
Tu y as pêché où, baobab, acajou.
Voici que cet épisode aux côtés d'un technicien de la matière brune en devenir prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle, fraîchement cueillie.
Pain des landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremble être noyés.